Maintenant, un bon podcast.
Maintenant, un bon podcast. Et maintenant, un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir une fois de plus de rencontrer Cyril Demac. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous.
Cyril, société Istari, bien connue, qui marque un coup étonnant, on va dire, comme chaque année avec ses découvertes. Puisque ici on sort sur un jeu qui ressemble à une bande dessinée, c'est les Mousquetaires du Roi. Et en plus c'est du coopératif, donc ça c'est du jamais vu chez Istari.
Oui, mais c'est toujours notre but de surprendre un peu. Souvent, c'est marrant d'ailleurs, souvent les gens pensent qu'on est dans une certaine gamme de produits, alors que pour moi, c'est un petit peu faux, et ça fait longtemps que c'est faux. Je l'ai déjà dit, mais par exemple, pour moi déjà, Ispahan, c'était déjà se démarquer, alors que finalement, c'est que notre troisième jeu, et c'était déjà une démarcation. D'ailleurs, mes testeurs me l'ont dit, quand j'ai dit on va faire Ispahan, ils m'ont dit, mais t'es dingue, ça ne correspond pas à... Je leur ai dit, mais si, ça correspond, il y a quelque chose, et puis... Et donc, c'est depuis Ispahan qu'on se démarque. Et le truc, c'est que maintenant, on se démarque de plus en plus. Quoi.
C'est qu'on l'a vu cette année aussi avec Astéroïdes, qui fondamentalement n'était peut-être pas dans cette ligne-là aussi.
Bah complètement, mais en même temps, si tu veux, je pense que déjà, c'est mon intérêt, parce que mon but n'est pas de sortir le millième clone de Kellus. Les autres le font très bien sans moi. Et puis surtout, effectivement, je trouve que... Il y a une certaine saturation du marché de ce type de jeu, de gestion. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par les jeux de gestion. Je suis toujours intéressé, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Tu vois, par exemple, tu prends Amitis, c'est un jeu de gestion, mais un jeu de gestion un peu différent, puisque basé sur le temps, etc. Et donc, on est toujours intéressé par les jeux de gestion, mais si c'est un jeu de gestion qui doit ressembler à ce qu'on a déjà sorti, ça ne nous intéresse pas. Donc autant faire autre chose.
C'est clair, c'est un constat qu'il faut faire, je pense, sur l'année 2010 aussi, c'est qu'il y a énormément d'éditeurs qui sortent, des micro-éditeurs, qui ont chacun leur type de jeu. Et donc finalement, on parlait il y a quelques années de ligne éditoriale d'un éditeur, c'est quelque chose qui n'existe plus.
Bah, disons que ça devient difficile. Je pense que peut-être c'est en corrélation avec l'offre et la demande, tout ça. Il y a beaucoup de nouveaux auteurs aussi. Donc, c'est difficile de nos jours d'avoir une ligne éditoriale. Moi, c'est pas que je pense qu'on n'a pas une ligne éditoriale. Je dis que notre ligne éditoriale n'est pas très évidente. En fait, la base de notre ligne éditoriale, c'est j'aime bien le jeu me parle, je le fais. C'est vraiment ça. Et après, je me considère comme un joueur tout à fait normal. Il y a certains jeux que je vais pas aimer alors que ça va être des gros succès. Il y a d'autres jeux que je vais aimer alors que ça va être peut-être pas des gros succès. Mais le plus important, c'est que j'ai envie de développer le jeu.
Alors, justement, venons-y, les Mousquetaires du Roi. On est dans une illustration du roman d'Alexandre Dumas. Donc, ce sont les Trois Mousquetaires et la quête des Ferrets. Mais en plus, c'est un jeu coopératif, ou pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même la fameuse Milady qui vient mettre son grain de sable. C'est Gilles Lehmann et... voilà. C'est François Combes et Gilles Lehmann qui t'ont mis ça entre les mains. Ça fait combien de temps que tu l'as entre les mains ?
Alors, ça fait très longtemps, en fait. Je pense que ça fait environ 2 ans et demi, peut-être même un petit peu plus. Bon, évidemment, on n'y a pas bossé tous les jours depuis 2 ans et demi. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et justement, quand ils m'ont contacté, il y a environ 2 ans et demi, donc, c'était par téléphone. Ils m'ont dit, voilà, on a un jeu coopératif et c'est les Mousquetaires du Roi. D'emblée, ça m'a plu. Pourquoi ? C'est simple. C'est un des cas où j'avais envie que le jeu soit bien déjà avant de le recevoir. Pourquoi ? Parce que à l'époque, moi je suis un fan de coopératif, donc on voulait avoir un coopératif, c'était pas la question. Mais surtout quand ils m'ont dit les Mousquetaires du Roi, je me suis dit les Mousquetaires du Roi, un pour tous, tous pour un, quel thème parfait pour un coopératif ? Je me suis dit franchement, à part 2-3 autres thèmes, il y a rien de plus parfait pour un coopératif. Donc on l'a reçu et le jeu n'était pas du tout comme ça. Déjà, par exemple, il n'y avait pas Milady. Et on l'a joué, le jeu était parfaitement équilibré et tout ça, mais on trouvait ça dommage que le jeu n'aille pas plus loin. Donc on a proposé aux auteurs un certain nombre de directions, pas d'aménagement, parce qu'on leur a dit « Ah, c'est bien, mais on aimerait que le jeu soit plus romanesque. » En fait.
Oui, c'est ça, voilà.
Et donc on a commencé à discuter à comment le rendre plus romanesque. Ça, c'est le genre de truc qui est facile à dire, beaucoup moins facile à faire.
Déjà, vous y êtes arrivé en donnant une image, une image assez BD, ouais. du plateau, puisqu'on a des cas sur lesquels il va se passer différentes choses. Le côté romanesque, il est repris évidemment par les Mousquetaires, puisque l'histoire elle-même est truffée de rebondissements, et ça se ressent bien déjà rien qu'à l'ouverture de la boîte. Alors justement, quelle est la trame exacte ? On sait que c'est la quête des Ferrets, mais il y a moyen de l'aborder différemment.
Oui. Alors déjà, on a essayé d'inclure un peu plus de choses que la quête des Ferrets, parce que en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que on connaît un peu, surtout les Mousquetaires par les films, en fait. Et dans les films c'est comme ça, mais dans le roman il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, la quête des Ferrets est réglée peut-être en 2 chapitres, quoi. Alors Malgré tout, on l'a laissé central parce que c'est ce que connaissent les gens. Mais ça ne nous a pas empêché d'introduire d'autres endroits, comme La Rochelle, qui est quelque chose qui occupe au moins autant de place que la quête des Ferrets dans le roman, et tous ces genres de choses. C'était déjà dans le proto initial, La Rochelle. Donc, le proto initial suivait assez strictement l'histoire du bouquin. C'est-à-dire, il y avait trois chapitres, on va dire. C'était d'abord les Ferrets de la Reine, puis La Rochelle, puis la mort de Milady. Et Constance et Milady s'appelait le dernier chapitre. Et nous, on a cassé ça parce qu'on trouvait ça trop linéaire. On voulait quelque chose de plus ouvert. Et on s'est dit, La Rochelle, c'est un très bon endroit. Il faut l'exploiter plus durant toute la partie, par exemple. Constance, pareil, c'est un personnage. C'est dommage qu'il n'intervienne qu'à la fin. On va l'exploiter tout du long parce que dans le roman, elle est exploitée tout du long. Donc, on s'est vraiment servi du roman comme d'un guide pour coller de plus près au style Dumas. Bon, après, il s'avère que malgré tout, on a laissé la quête des Ferrets centrale parce que c'est ce que connaissent les gens et aussi parce qu'on avait besoin pour les mécanismes, pour le côté asymétrique du jeu qu'on voulait mettre en place avec Milady.
Voilà, justement, parce que Milady est en fait un personnage aussi central de l'histoire. Alexandre Dumas a vraiment mis l'accent sur Milady parce que c'est une espionne, c'est une femme qui a une histoire extraordinaire et qui n'est pas mise en valeur par les films, justement. Et ça se ressent dans le jeu, dans le sens où Milady joue seul face aux autres, comme Alexandre Dumas l'a décrit.
Exactement. On a discuté beaucoup avec Gilles Lehmann, notamment, parce que Milady est un personnage qui le passionne beaucoup. Et en fait, si tu veux, même à la limite, on pourrait aller plus loin et dire que le vrai personnage principal du roman, c'est Milady, en fait. Bon, les mousquetaires ont aussi leur moment de gloire, mais plus dans 20 ans après. Et en fait, c'est vraiment Milady qui tire les fils de tout ça. Et souvent, elle va même au-delà de ce que lui demande le cardinal de Richelieu, en somme. Donc, on s'est dit, c'est vraiment bien d'inclure Milady. On y avait pensé dès le début, mais au début, on se disait, ce serait peut-être bien en extension ou un truc comme ça. Et puis, au final, on s'est dit, non, faisons... Le but aussi, c'est de sortir un coopératif qui n'a pas trop déjà été fait. Donc, on s'est dit, en posant directement les camps, c'est-à-dire, ça existe des gens qui tirent dans l'autre sens. Par exemple, dans les chevaliers de la table ronde, t'as un félon. Donc voilà, il joue clairement contre les autres. Mais nous, on s'est dit, non, nous, on a un méchant, il est déclaré. Et on va lui donner des pouvoirs pour qu'il puisse se battre contre quatre mousquetaires. Donc, voilà, c'est toute l'idée de Milady. Mais pareil, parce qu'on s'est dit, au final, c'est ça que... C'est l'idée... tu vois, c'est comme... tu prends la Guerre des Étoiles. Quel est le héros de la Guerre des Étoiles? Ben, clairement, c'est Dark Vador. Et ben, dans Les Trois Mousquetaires, le héros, c'est clairement Milady.
Je crois que c'était le Tonton qui mourait au départ. Bon, donc, ok... Il y a énormément de choses qui vont se passer dans le jeu. Passons un peu sur les différentes... Bon, la trame du jeu, comment se passe le jeu tour après tour?
Alors, c'est très simple. En fait, l'idée de base, qui est l'idée asymétrique du jeu, les mousquetaires n'ont qu'une chose à faire, c'est régler la quête des Ferrets. Enfin, pour gagner le jeu, dès qu'ils ramènent les Ferrets à l'arène, ils ont gagné le jeu. C'est en ça qu'on est un peu traître par rapport au roman, mais comme ils vont agir partout ailleurs, de toute façon, ce n'est pas très grave. Par contre, Milady, elle n'a qu'une chose à faire, c'est les en empêcher. Mais pour ça, elle a plein de solutions. Donc les mousquetaires ne peuvent gagner qu'à un endroit, et Milady peut gagner à plein d'endroits. Et tout son but, ça va être, comme dans le roman, de distraire les mousquetaires. C'est-à-dire leur poser des embûches à droite à gauche, c'est-à-dire de leur dire, vous aimeriez bien aller à la quête des Ferrets, mais là, il faut vraiment aller à Paris d'urgence, parce que je vais pas tarder à tuer Constance. Vous aimeriez bien aller à la quête des Ferrets, mais là, à La Rochelle, il y a vraiment trop de troupes anglaises qui sont là, il va falloir d'abord aller faire un peu de ménage avant d'aller à la quête des Ferrets. Et c'est en fait tout ça qui est le jeu de Milady. Milady est un jeu très stratégique, c'est-à-dire qu'elle va influencer les destinations des mousquetaires par sa stratégie. Les mousquetaires ont un jeu beaucoup plus tactique, c'est-à-dire à ce moment précis, définissons nos priorités, définissons les urgences.
Le seul truc, c'est que Milady entend les discussions des mousquetaires parce que chacun est autour du plateau.
C'est exactement ça, et c'est un autre concept très amusant dans ce jeu. C'est-à-dire que, par exemple, au chevet de la table ronde, ils ont réglé leurs problèmes d'une façon qui est, ma foi, honorable, le jeu est bien d'ailleurs, c'est en se disant, il va falloir faire certaines combinaisons de cartes, mais on n'a pas le droit de se communiquer les cartes. Nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, parce qu'on s'est dit, c'est peu probable que Athos et D'Artagnan ne veulent pas se parler. Donc c'est un mécanisme, nous on a dit, postulat de base, tout le monde a le droit de savoir les cartes de tout le monde. S'ils ont envie, ils peuvent même jouer à cartes découvertes. Le problème, c'est qu'il y a un ennemi assis à table, et plus tu dis de choses, plus il va avoir d'informations. Par exemple, En plus, c'est marrant parce que l'humain a une tendance naturelle à vouloir communiquer beaucoup, surtout dans un coopératif. Et généralement, on s'aperçoit que les mousquetaires parlent beaucoup trop. Exemple typique, ça va être... on commence par la phase de Milady où on va programmer des choses. Les joueurs mousquetaires ne peuvent pas trop s'empêcher de parler. Ils commencent à se dire « Ouais, à ce tour-là, ce serait bien que tu me passes du panache. Comme ça, moi, je vais aller là, je vais aller régler ça. » C'est une carte de panache, quoi. Je vais aller régler ça, etc., etc. Milady entend ça. Elle sort une de ses cartes perfidies et elle va dire « À ce tour-là, les mousquetaires n'ont pas le droit d'échanger des cartes. » Tu vois, donc c'est un peu le jeu de Milady. En fait, c'est cette présence hostile qui est là qui fait que même si Milady, pendant le tour des mousquetaires, elle fait, on va dire, entre guillemets, pas grand-chose puisqu'elle joue juste les adversaires en combat, etc. Mais Milady, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour un jeu stratégique où elle va devoir tirer des conclusions, appuyer sur certains points. Je vois que vous avez un point faible là, je vais appuyer là. Et donc, c'est deux jeux complètement différents. C'est comme avoir deux jeux en un, en fait.
Et alors, justement, le jeu se joue avec des éléments, on va appeler ça des ressources, hein, puisque les mousquetaires ont deux choses spécifiques, je pense, à leur disposition pour influencer les choses.
Ouais, alors, en fait, la principale ressource des mousquetaires, c'est des cartes. Donc, ils ont un deck de cartes. Tirer des cartes, ça coûte une action. Et les mousquetaires ont trois actions. Donc, ils commencent avec pas mal de cartes, mais assez vite, ils les épuisent. Et ils ont deux façons d'interagir principalement dans le jeu, c'est les défis et les duels. Les défis, c'est un petit peu comme au jeu de rôle, on a des caractéristiques. Donc par exemple, la galanterie, le panache, enfin on a pris des caractéristiques assez d'époque, très, très, très Dumas, et qui datent depuis le début du jeu d'ailleurs. Et on va s'en servir un peu au jeu de rôle pour faire des... C'est pas des jets de caractéristiques, mais... Tel mousquetaire va être plus fort en galanterie et en fait il va pouvoir jouer des cartes de galanterie pour s'aider à accomplir certains jets de caractéristiques entre guillemets. J'ai fait des guillemets là, à la radio, ça se voit pas tellement. Et à part ça, il y a les duels, et les duels, ça va se jouer avec leur potentiel de combat et des dés de combat. Et Milady va jouer les adversaires, elle a une armée d'adversaires à sa disposition, tous avec des caractéristiques spéciales. Et les mousquetaires, eux, ils ont que leur pauvre petite épée, mais premièrement, ils peuvent acheter de l'équipement, des pistolets, des armures. Et deuxièmement, ils ont aussi leurs bottes secrètes qu'ils peuvent améliorer, etc. Donc en fait, on a tous les éléments d'un truc. Par exemple, les dés, c'est quelque chose qu'on a fait rajouter aux auteurs. À l'époque, les dés se réglaient avec un jet de dés très simple, un dé à 6 faces. Et on leur a dit, là, c'est dommage. Faudrait plutôt quelque chose de plus picaresque. Donc on a dit, faites un truc avec des dés spéciaux, on veut des bottes secrètes, on veut ce genre de choses. Et ils nous ont trouvé un très bon système à base de ça, ce qui fait que les combats se résolvent en environ une minute, mais sont plutôt picaresques, comme je l'ai dit.
Et donc ça veut dire qu'on a un personnage devant soi, chacun joue un des mousquetaires, on a un petit tableau individuel, et on le fait évoluer au fur et à mesure du jeu.
Exactement. En fait, c'est sans faire exprès, mais François Combe, par exemple, est un grand fan de jeux de rôle. Sans faire exprès, ça émule certaines choses du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a une feuille de personnage qui a des caractéristiques, qui a du combat et qui va pouvoir avoir de l'équipement. En face, on a une Milady qui est derrière son paravent et qui va orienter grandement la partie. Donc finalement, on retrouve certaines constantes du jeu de rôle, même si Milady n'est pas un maître de jeu bienveillant, mais plutôt malveillant. Donc il y a vraiment cette petite composante de jeu de rôle. Alors on ne prétend pas que c'est un jeu de rôle. D'un autre côté, je pense que le jeu est très amusant quand on le joue. Par exemple, si les joueurs, et tout a été fait dans ce sens, si D'Artagnan commence à se parler comme dans le roman, à se vouvoyer, etc., ça peut être vraiment une expérience très fun.
Alors, on en a parlé un petit peu. Y a des cas sur le plateau. Ouais. Ce sont les étapes du jeu, en fait, ou ce sont les lieux.
Plus ou moins, ouais. La quête, plus ou moins, donc la quête, c'est par étapes. T'as quatre plateaux, un peu comme au Seigneur des Anneaux. Je suis désolé, je cite plein de jeux coopératifs en référence, sachant qu'on a vraiment tenté de faire quelque chose de différent. Donc, cherchez pas trop la comparaison. Mais la quête des ferrets, pour coller à l'histoire de Dumas, on l'a divisée en quatre étapes. D'abord, les joueurs vont à Calais, mais sur le chemin, ils sont attrapés dans une auberge par les agents de Milady. Ensuite, ils essayent de prendre le bateau pour Calais en tuant l'agent de Milady, en se faisant passer pour lui discrètement.
Juste un truc, tu dis, ils se font attraper dans l'auberge par les suppôts de Milady, on va dire. C'est Milady qui lance ça ou c'est systématique ?
Alors, non, ça c'est systématique. Milady a un pool d'adversaires à sa disposition. Alors il ne faut pas confondre avec les cartes d'adversaires. Mais elle a tout plein de petits jetons qui est un petit peu tout ce qu'elle a sous la main pour jusqu'à l'aventure. On lui donne juste assez pour aller au bout de l'aventure. Et dedans, il y a des forts, il y a des faibles, etc. Elle peut vraiment gérer son jeu là-dessus. C'est-à-dire que la première étape, c'est l'auberge. Elle va mettre 8 adversaires et 4 leurs.
C'est elle qui les choisit, donc c'est ça qui définit la difficulté de l'étape.
Exactement. Si elle met tous les forts à la première étape, les mousquetaires auront moins de boulot par la suite. Donc c'est elle de décider à quel moment elle met la pression, à quel moment elle relâche la pression. Donc ça, c'est la quête principale divisée en 4 plateaux. Tout ça, c'est différent. Parce qu'après, on revient de Londres à Paris et ensuite, on doit atteindre l'arène. Mais partout ailleurs, il y a plein d'autres cases sur le plateau qui ne servent à rien. C'est magnifique. Elles ne servent à rien pour les mousquetaires et pourtant, ils y passent leur temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez La Rochelle où il y a le siège. Il y a les Huguenots qui ont fait sécession dans la ville. Ils se sont enfermés, les Anglais les aident, etc. Le roi de France ne peut pas tolérer ça. Donc, il envoie son armée et donc les mousquetaires à La Rochelle. Les mousquetaires ne doivent absolument pas perdre La Rochelle, sinon la partie est perdue. C'est-à-dire qu'en gros... l'explication thématique, c'est que si La Rochelle est perdue, les troupes du roi vont vraiment assiéger la ville et les mousquetaires n'auront plus le temps de faire la quête. À côté de ça, il y a Paris. Paris, c'est là où Milady fait vraiment son jeu stratégique. C'est les pires cartes, c'est les cartes Paris. Et à Paris, Milady fait des complots pour principalement essayer de capturer Constance ou de la tuer. Et à un moment donné, si Constance meurt, la partie est perdue. Et à côté de ça, il y a le Louvre où la reine va tenter de déshonorer, Milady va tenter de déshonorer la reine. Et elle met des missions. Et si on les accomplit pas, la reine va perdre de l'honneur. Et si l'honneur de la reine arrive à zéro, voilà. Et en plus de ça, t'as Richelieu, qui est une zone où Milady peut récupérer des cartes de perfidie, mais c'est sous condition, etc. Donc il y a pas mal d'autres activités sur le plateau. Les mousquetaires ne peuvent pas négliger ces points, malheureusement, parce que sinon, ils vont perdre la partie avant d'avoir mené la quête à bout.
Donc ça veut dire que le joueur qui joue Milady joue vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion. Parce que parfois dans ce genre de jeu-là, il y a la contrepartie de la coopération est un petit peu moins joueuse.
Alors complètement. Par contre, je dois dire que donc ça joue complètement différemment. Je pense que Milady ne conviendra pas à tout type de joueur. Milady, en fait, son rôle, ça conviendra bien à ce que j'appelle les éminences grises. C'est-à-dire le gars qui aime bien réfléchir, faire ses petits plans dans son coin. Maintenant, une chose est sûre, si Milady joue mal, les mousquetaires vont la massacrer. On a vu des tests où les joueurs jouaient pas très bien et à un moment donné comprenaient comment se jouait Milady. Et là, ça devenait plus dur d'un coup, quoi. Donc Milady, c'est un vrai jeu. On a une variante pour la jouer en automatique. Moi, je trouve ça moins bien. C'est bien parce qu'on a on a mis quelques règles.
Automatique, ça veut dire que tu peux jouer tout seul.
Ouais, tu peux jouer sans Milady. Enfin, Milady joue toute seule. C'est quand même un peu moins bien parce qu'une Milady intelligente va mettre le feu à certains endroits parce que là, elle sent qu'il y a une grosse pression à La Rochelle, alors elle va en rajouter. Ou là, elle va dire « Tiens, maintenant, ils sont trop bien armés à La Rochelle, je vais plutôt aller mettre la pression ailleurs. » Une Milady automatique ne peut pas faire ça. Donc Milady, c'est très intéressant à jouer. La différence, c'est qu'effectivement, le tour de Milady est beaucoup plus rapide que celui des mousquetaires. Si on a des mousquetaires qui discutent une heure, Milady va faire les combats avec tout ça, mais elle aura tendance à plus s'ennuyer. Mais
elle aura profité de la discussion des autres.
Exactement, mais je ne pense pas pour autant que ce soit ennuyeux de jouer Milady. Moi, personnellement, j'adore jouer Milady parce que là, tu
vas très très bien
sur le jeu. Oui, je suis perfide, mais il y a pire chez nous. Mais par contre, je dois dire qu'il y a une carte qui est assez amusante parce que dans le jeu, on a mis un petit truc, un petit détail d'élément, c'est le sablier. À deux moments de la partie, Milady, elle a des cartes sabliers. Généralement, quand tu as choisi un moment bien crucial, c'est assez marrant. Donc, c'est une de ces cartes perfidies qui s'appelle Urgence. Elle joue la carte, elle retourne le sablier. Les joueurs ont 2 minutes pour terminer leur tour. Et s'ils n'ont pas terminé...
Tous ensemble, donc 2 minutes.
Ouais, voilà. Et s'ils n'ont pas terminé, tout s'arrête. Et il faut voir le jeu à ce moment-là. Généralement, tout le monde... Alors, si Milady choisit bien son moment, c'est la panique générale. Donc ça se termine, tant pis, je pioche des cartes, j'ai d'autres trucs à faire, mais on n'a pas le temps. Allez, vite, 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 joue.
Ok, donc on sent que tu... On sent, enfin, évidemment, tu l'aimes bien parce que c'est un jeu que tu as édité, mais on sent qu'il y a vraiment une expérience très agréable dedans. Il y a deux illustrateurs qui se sont prêtés au jeu. Donc, il y a Arnaud de Magde et il y a le fameux Nériac qui se sont partagés la tâche. Comment est-ce qu'ils se sont partagés ça ?
En fait, assez naturellement, Nériac, c'est un ami à moi d'enfance. Hein, on était en primaire ensemble. Je crois qu'on s'est rencontrés au CE1. Je ne sais pas si ça parle pour des Belges, CE1.
C'est la première année primaire.
Oui, enfin, ouais. Il y a le CP et après le CE1. Donc,
deuxième année primaire.
Ouais. ça allait être la 11e ou un truc comme ça.
Ça dépend des écoles.
Et c'est un ami à moi qui illustre des trucs, qui a son blog, etc. Et on s'est rencontrés, il s'ennuie, parfois il s'ennuie un petit peu dans son métier, il m'a dit je m'ennuie et tout. Et je savais que c'était un grand passionné de cette époque-là. Je lui ai dit, bah écoute, si tu t'ennuies, j'ai un petit essai à te faire. On voudrait faire les mousquetaires, on voudrait vraiment un feeling un peu BD, pour ceux qui connaissent par exemple le Scorpion. On cherche ce genre de feeling. Alors Marini, qui est un grand illustrateur, nous aurait coûté bien trop cher. Je lui dis donc, si ça t'intéresse, si tu te sens capable de le faire, il m'a dit ouais, ça m'enthousiasme à mort. Il m'a envoyé ça. Il m'a dit, moi je suis fort pour les personnages, mais les fonds, c'est pas ma spécialité. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, parce que je voudrais qu'on ait un aspect un peu cellulo, c'est-à-dire des décors peints et dessus les personnages à la ligne claire. Et donc on va faire ça avec Arnaud, et comme ils se connaissent bien et qu'ils s'entendent bien, il n'y a vraiment eu aucun problème. Donc ça a marché tout seul, quoi, quasiment tout seul. Et au début il y avait plein de directions graphiques, mais quand on a vu ça, on s'est dit ok, c'est ça la direction graphique. Voilà.
Ce que ça donne, c'est effectivement, bon, il y a le côté BD, mais il y a un côté un peu théâtre, avec le décor peint derrière.
Ouais, c'est exactement le feeling qu'on voulait rendre. Comme quoi, je peux pas me tromper tout le temps. Non, mais sur ce coup-là, c'était une bonne intuition. C'est vraiment comme ça que je voyais le jeu. Pareil, je lui ai donné des directions artistiques. Je lui ai dit, par exemple, les mousquetaires, on veut pas leur donner l'aspect propre qu'ils ont souvent dans les films. On veut qu'ils aient un côté un peu soudard, un peu... Il y a eu un excellent film de Richard Donner qui est le plus proche de... Richard Lester, oui. Qui est le plus proche des mousquetaires, en fait. Un peu trop comique peut-être, mais qui est très proche de... Car les combats, c'est des combats de rue. Ils se bastonnent à grands coups de poing, etc. Et ils sont... sans arrêt à la recherche de fric, c'est le gros problème des mousquetaires, et c'est vraiment ça qu'on a voulu rendre. Et donc dans la direction graphique, je lui ai dit, surtout tu ne me les fais pas propres. Et c'est pour ça, D'Artagnan, il a une blessure au bras, ils ont tous des capes rapiécées, etc., etc. C'est vraiment la direction qu'on voulait pour le jeu, quoi.
Parfait, merci beaucoup Cyril pour cette belle explication, c'était plus que détaillé, et donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer, un grand merci et bon salon.
Bah, ce fut un plaisir, je parle toujours trop, je sais, mais ça me passionne vraiment et j'aime vraiment beaucoup ce jeu, donc je suis vraiment content d'en parler.
On le sent, merci.
Merci, au revoir.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.